mas caminho longe, esse caminho passando bem. Quem mostrava esse caminho longe, esse caminho passando bem. Saudade, saudade.
Alors sur cette magnifique chanson donc de Cesaria Evora dont nous avions parlé puisqu'il y a un film qui était sorti sur elle il y a pas si longtemps que ça. Je voulais vous dire, samedi prochain, il y a pas mal de choses dont je ne vais pas vous faire la liste. Je veux simplement vous dire quand même que nous allons parler notamment de deux films, Une autre vie que la mienne. C'est un film de Malgorzata. Ah, je ne vais pas y arriver là. Zumoska. J'ai des problèmes avec les noms d'Europe centrale. Et de Michal Angler. Donc c'est un film qui sort le 29 mai. Et puis un autre film, un film de Michel Franco, Memory. Et je voulais aussi vous raconter quelque chose qui quand même a beaucoup choqué cette semaine, entre autres horreurs que nous pouvons entendre quelquefois aux infos. Mais là, vraiment, c'est quelque chose qu'on a reçu par la bande, on va dire. Et c'est Ilan Pappé, l'auteur, l'historien et auteur israélien qui a écrit Nettoyage ethnique, qui est publié, qui a été traduit et qui est publié, republié à la Fabrique. C'est donc, c'était parti d'un livre qui avait pour titre Ethnic Cleansing, il y a déjà pas mal d'années. Et donc Ilan Pappé est c'est un militant, c'est un historien, géographe, militant, antisioniste, et il devait se rendre à un colloque aux États-Unis dernièrement, et il nous a envoyé un mot en disant qu'il avait été arrêté à la frontière. On lui avait posé des questions, lui demandant est-ce qu'il soutenait le Hamas, quelles étaient son opinion par rapport à ce qui se passe à Gaza, quelles étaient ses positions politiques, était-il contre Netanyahou, etc. Enfin, toute une page de questions que, si vous voulez, je vous mettrai sur le site des Chroniques Rebelles, parce que c'est tellement farfelu et incroyable qu'on se demande qu'est-ce qui se passe vraiment quelquefois aux États-Unis, surtout que dernièrement ils ont refusé l'accueil d'un président d'université, je crois que c'est l'université de Glasgow, sous prétexte qu'il était d'origine palestinienne. Non, mais on n'arrête pas le progrès, comme dirait l'autre. Voilà, donc la semaine prochaine, j'espère que vous allez passer une bonne semaine. La semaine prochaine, donc, on se retrouve avec les Chroniques Rebelles, et surtout, comme d'habitude, tenez bon.
Radio Libertaire 89,4 MHz de Soutsène, magazine de créatures radiophoniques. Nous sommes ensemble pour une heure et demie. Enfin, on verra bien parce que vu comment l'être humain se comporte, il est possible que d'ici une heure et demie, l'un de nos congénères plus ou moins bizarres ait réussi à faire sauter la Terre. On est tellement cons maintenant. Radio Libertaire, quelques petits, je me souviens, histoire d'entamer ce magazine. Ah! Je me souviens que par le petit bout, par le petit bout, par le petit bout de la lorgnette, on y voit bien mieux que le monde est fou, on y voit bien mieux que par le gros bout. Je me souviens que pendant tout le confinement, Christophe avait tenté en vain de suivre les conseils prodigués par les médias pour faire du sport sans encourir le risque d'une amende, y compris d'ailleurs faire du surplace sur le carrelage de sa salle de bain enduite de liquide vaisselle. Je me souviens que c'est après la mort de sa tante Geneviève que Franck avait compris, en voyant à l'enterrement les pleurs de Catherine, celle que Geneviève avait toujours présentée comme sa colocataire, Franck avait compris que les amours homosexuels et contrariés pouvaient avoir concerné aussi les générations précédentes. Je me souviens que c'est en voyant le feuilleton des Thibault en 6 épisodes avec notamment Charles Vanel et Judith Magre que j'avais eu l'idée d'offrir à ma mère les 8 volumes de Roger Martin Dugard en livre de poche. Comme ça, ça faisait son anniversaire, Noël et la fête des mères. Je me souviens que c'est en 1981 qu'a été instauré le prix unique du livre. Avant, j'allais chez un libraire parce que les prix étaient intéressants. Après, j'ai commencé à aller chez les libraires à cause de leurs petits post-it avec des conseils. Je me souviens du générique de la piste aux étoiles, Gilles Margaritis, Roger Lanzac et l'orchestre dirigé par Bernard Hilda et puis les numéros de Alex et Francini. Je me souviens de Métro, de 20 minutes, de Direct Matin, devenu CNews, de À nous Paris et aussi de Logique Imo et de quelques journaux gratuits plus spécialisés dans les annonces qu'on trouvait aussi sur les campus de Jussieu et d'Orsay. Je me souviens que Gilbert m'avait offert une bière, place de la Sorbonne, quand nous avions appris la démission de Charles Hernu suite à l'affaire du Rainbow Warrior. Je me souviens que les instituteurs avaient dû lire la lettre de Guy Moquet à tous les écoliers de France. Je me souviens de Tout coucou et Mifili. Je me souviens de Casse-toi, pauvre con. Je me souviens que ma tante Janine avait dit à son fils Paul, lors de son voyage scolaire dans une famille en Angleterre, « Ben, Minfu, si tu vois qu'ils sont encore plus pauvres que nous, bah fais donc exprès d'oublier sur place un de tes pulls, s'il y a un enfant qui a à peu près la même taille. » Au retour, Paul avait laissé tous ses pulls, ses 2 chemises et même la valise. Je me souviens d'un vieux laboureur sentant sa fin prochaine et je crois que j'ai oublié toute la suite. Je me souviens que Fabienne, intervenante académique sur les nouvelles technologies et l'information, s'était vue refuser l'accès à un lycée privé confessionnel du centre de Lyon. Ce n'est pas un pléonasme, parce que, à la séance du matin, elle avait expliqué comment certains réseaux d'extrême droite manipulaient les réseaux sociaux. Je me souviens des mentions sur quelques plaques de rue. Maréchal d'Empire, général de division, ancien propriétaire, fille du propriétaire, astronome mathématicien, défenseur des minorités, ancien déporté, victime de la barbarie, auteur dramatique, banquier qui fit construire 7 maisons, peintre, ah non pas peintre en bâtiment, peintre, femme de lettres, lieu dit, évêque de 1612 à 1633, ancienne route, industriel, compositeur et organiste, botaniste, et je n'ai toujours pas trouvé de rue avec indiqué institutrice ou caissière du Franprix qui se tenait là dans les années 50, 60, 70. Je me souviens de Pierre-Alphonse Boussuge, Louis d'Autremay, Alfred Guipon, Oscar Quinchon, des noms attrapés le long du long monument aux morts, le long du Père Lachaise, les morts de la guerre de 14, des jeunes qu'on avait envoyés pour la patrie, allez savoir, Noël Quintalet, etc. Tous leurs noms ont été oubliés depuis, et on a même oublié pourquoi on les avait envoyés là-bas.
Les arbres étaient encore verts et les oiseaux tout bleus. Elle priait pour son grand frère qui était amoureux. Elle priait pour son grand-père qui finissait boiteux.
puisque Dieu est si vert, elle priait même pour Dieu. Et elle jetait des cailloux dans la rivière Bambou. Et elle jetait des cailloux dans la rivière Bambou. Elle avait juste 15 ans, des fleurs dans les cheveux. Elle épouserait au printemps un homme déjà bien vieux, qui lui ferait des enfants beaucoup plus qu'elle n'en veut. Mais ce que disent les parents, c'est ce que veut le bon Dieu. Alors elle jette des cailloux dans la rivière Bambou. Alors elle jette des cailloux dans la rivière Bambou. Comme elle s'ennuyait un peu dans son village tranquille, souvent fermant les yeux, elle rêvait de la ville. On devait y vivre heureux sans plus piler le mille. Et pour rencontrer le bon Dieu, ce serait plus facile. Quand jetant tous ces cailloux dans la rivière Bambou, quand jetant tous ces cailloux dans la rivière Bambou, un jour des hommes sont venus avec de grands fusils. Ils ont tué la tribu et sa maman aussi. Elle a fui dans la forêt, des larmes plein les yeux, sans comprendre pour de vrai ce que voulait le bon Dieu. Elle a jeté des cailloux dans la rivière Bambou. Elle a jeté des cailloux dans la rivière Bambou. D'autres hommes, d'autres fusils, des chapeaux de fer bleu ont enterré sa famille, mis le village en feu. T'emmène à Kigali, là-bas tu seras mieux. Au milieu des matitis, elle a regardé le bon Dieu et jeté un dernier caillou dans la rivière Bambou. Et jeté un dernier caillou dans la rivière Bambou.
Radio Libertaire 89,4 MHz, La rivière Bambou, une chanson de Bruno Brel pour évoquer effectivement qu'il y a 30 ans et un mois avait commencé l'un des plus terribles génocides au Rwanda et qu'il y a 30 ans tout rond, eh bien on en était à presque 1 million de morts et en plus on avait dit après on va en tirer des leçons. Comme à chaque fois on va en tirer des leçons, c'est-à-dire qu'on va additionner, compter le nombre de morts et multiplier par 2 pour la prochaine. Dessous de scène, magazine de créatures radiophoniques, j'ai bien plombé l'ambiance, mais Moa, à toi, avec une guimbarde et des invités peut-être.
Oui, la tradition, c'est que je commence toujours par un son, pour vous souhaiter la bienvenue.
<t'en>
Bonsoir, bonsoir et bienvenue à Radio Libertaire. Alors donc, nous commençons par qui vous voulez.
N'importe.
De gauche à droite, de droite à gauche.
Comme vous voulez.
Oh, bon, allez, par le centre.
Allez, le centre.
Le centre, donc, c'est moi alors.
Donc, vous vous présentez, je m'appelle.
Alors, etc. Je m'appelle Catherine Merle, je suis chanteuse et violoniste. Musicologue aussi et un peu aquarelliste.
D'accord.
Et je travaille avec Daniel Chocron sur des conférences chantées. Voilà, on va en faire une le 30 mai sur qui s'appelle ça s'appelle Ciné Étoile, hein, mm-hmm. Et c'est sur les actrices de cinéma qui chantent. Voilà, et on va faire une dizaine de chansons sur ce thème-là. Au Connétable, 55 rue des Archives, métro Rambuteau, voilà. Et on peut, je sais pas, enfin, Daniel,
on fait les présentations et après on aborde.
J'aime pas trop ça, mais on va le faire quand même. Alors, je suis Daniel Chocron, donc je travaille avec Catherine Merle, et donc je suis historien du cinéma, et un peu de la chanson. Et donc là, effectivement, depuis quelques années, j'ai mis au point pas mal de spectacles, conférences spectacles, autour de thèmes de cinéma qui pouvaient être susceptibles d'être illustrés par des chansons, par des mélodies de belle qualité. Donc on revient souvent au début, on brasse à peu près dans chacune des conférences à peu près une soixantaine d'années, en commençant par les années 30 et en terminant par les années 80, 90, ça dépend des fois, ça dépend des thèmes. Alors peut-être pour citer quelques thèmes, donc les actrices qui chantent et les chanteuses qui jouent la comédie, on a fait aussi un...
Deux ou trois choses qu'on sait d'elles, voilà,
sur les chanteuses oubliées. Un peu oubliées, mais qui ont un grand talent et qui sont un peu oubliées, bon... Je dirais, c'est un peu le propre de notre société aujourd'hui, de notre état du monde, d'oublier beaucoup les choses, mais y compris les belles choses. Mais disons que voilà, et on a fait aussi quelque chose autour de Charles Trenet, parce que voilà, j'ai une petite passion pour Charles Trenet. Et
on a fait Boris Vian aussi.
Boris Vian, voilà, oui. Bref, des conférences spectacles qui sont, j'espère, assez ludiques et en même temps bien documentées.
Alors.
Bonjour, je suis donc Lorena Feley de la compagnie du Souffle 14 et je viens pour parler d'un spectacle qui s'appelle Tant que nos cœurs flamboient, qui balaye un petit peu, qui balaye un petit peu historiquement, on va dire Louise Michel de la Commune. La Commune de Paris, donc on en parle un petit peu, et le coup d'État au Chili, dont on a commémoré les 50 ans en septembre dernier. Donc cette partie-là est autobiographique, puisque je suis, moi, réfugiée politique en France. Je suis arrivée quand j'avais 5 ans. Et puis, on en vient à aujourd'hui, et ce questionnement qu'on pourrait continuer à l'infini, de où est-ce qu'on en est avec la liberté, l'égalité et la fraternité, là, maintenant, tout de suite.
D'accord. Bon, bah, alors, on revient au départ. Situez-nous un petit peu le spectacle que vous avez donné, comment vous l'avez monté, qui vous a aidé.
Alors, on travaille toujours un peu de la même manière, en fait. J'établis un thème, hein, ça passe par moi, parce que c'est moi qui parle. Donc, voilà, Catherine et notre amie pianiste, parce qu'on a oublié de parler du pianiste qui est important dans le trio, qui est Patrick Langlade, qui a beaucoup travaillé, qui a fait des musiques de films, qui a été un peu comédien. Il a joué notamment dans Et la tendresse bordel, qui était un film très connu dans les années 70, de Patrick Schulman, et c'est quelqu'un qui a un univers personnel et qui nous accompagne avec beaucoup de plaisir, j'espère, donc dans cette série de spectacles, de conférences spectacles. En fait, moi, je tenais un lieu avec un ami, un lieu culturel sur une péniche il y a très longtemps, et un jour il est venu jouer un spectacle et
dans la péniche
en tant que musicien, et il se trouve qu'après le spectacle on a bu un petit verre, on a discuté, on a sympathisé avant de devenir amis. et maintenant amis inséparables, je pense. Et voilà, donc on fait beaucoup de choses ensemble. Et ces conférences spectacles, c'est donc moi qui les initie au départ, c'est-à-dire que j'établis le thème, voilà. Et après, avec Catherine, on choisit ensemble les chansons, parce que bon, elle a aussi son mot à dire par rapport, même si elle a des tessitures assez larges, il y a des chansons qu'elle aime plus que d'autres, etc. Ou que même Patrick aime mieux jouer que d'autres, par exemple. On dit qu'il ne faut pas citer les noms, mais tant pis. Bon, par exemple, il n'aime pas beaucoup Maurice Jarre. Alors, je sais qu'il n'y aura jamais de chanson écrite par Maurice Jarre, parce que bon, il n'aime pas du tout.
Et pourquoi ?
Bon, il n'aime pas. Il trouve que bon, c'est pas un très grand musicien. Bon, voilà, bon, ça se discute, hein, comme dirait l'autre. Mais voilà, il est difficile de le faire jouer ce type de musique. Par contre, à partir du moment où on se met d'accord, je les laisse répéter tous les deux. Et moi, j'interviens toujours dans la dernière répétition. J'écoute surtout plus qu'autre chose. Et ce qui est amusant, c'est que, en même temps, on est habitué un peu comme ça, c'est qu'ils ne savent pas ce que je vais dire.
Oui.
Parce que même moi, je ne sais pas ce que je vais dire, puisque j'improvise. Ah. Donc, voilà, j'ai toujours été comme ça. Bon.
Il n'a pas de notes.
D'accord.
Alors, j'improvise parce que quand j'étais prof, voilà, à la fac, bon, c'était un peu comme ça. Quand j'ai ensuite enseigné à une école de cinéma, j'étais comme ça. Et avec mes copains, mes amis, bon, il n'y a pas besoin de notes, hein, autour d'un verre ou d'un repas, on n'a pas besoin de ça. Mais j'ai toujours aimé me mettre un peu en danger. Et dès que quand j'assiste des fois à certaines conférences à la Cinémathèque, je suis toujours un peu surpris, même si je n'apprends pas grand-chose parce que je connais bien les thèmes. Les conférenciers lisent. Et ils ne peuvent pas lever leur tête du papier. Et on a l'impression qu'ils sont complètement perdus. Et c'est un peu dommage. Alors que moi, j'essaie d'instaurer une forme de dialogue, voilà, de dire, je crois que vous avez assisté à une de mes conférences sur un autre thème, hein, mais voilà, je parle sans notes, j'essaie d'inclure le spectateur, des fois faire quelque chose, de poser une question, voilà, et on travaille comme ça, et ça masse pas mal, hein, finalement.
Ouais, ça marche bien, c'est agréable, en tout cas.
Ça te gêne pas, en tout cas, de savoir que tu ne sais pas ce que je vais dire.
Non, pas du tout, j'apprends.
Rassure-toi, moi non plus. Hein, donc,
c'est toujours agréablement surpris.
Ah, toujours agréablement surpris.
D'accord, voilà.
On apprend des choses aussi.
Et donc, c'est principalement basé sur le chant aussi.
Voilà, parce qu'on veut agrémenter ces conférences par des chansons qui illustrent le propos. Comment pourrais-je vous dire ça? Alors, par exemple, on va prendre un exemple. L'autre fois, on a fait toujours au Connétable, on avait fait un spectacle sur le cinéma, l'amour du cinéma, l'amour du spectacle. Et donc, à un moment donné, je parle de, parce que c'est d'actualité en plus, du Festival de Cannes, de l'histoire du Festival de Cannes, depuis cette première rencontre manquée en 1939, parce que il y a eu la guerre qui a interrompu la première édition du Festival de Cannes qui devait avoir lieu le 1er septembre 1939. C'est le début de l'invasion de la Pologne par Hitler, donc c'était pas le moment de parler de cinéma. Et donc, une fois que j'ai parlé un peu de l'histoire du cinéma de Cannes, enfin l'histoire du Festival de Cannes à travers ces grandes dates, ces scandales comme La Maman et la Putain, La Grande Bouffe, les grandes palmes d'or, voilà, tout ce récit assez passionnant autour du Festival de Cannes, on a cherché une chanson illustrant ce thème. Et on a trouvé une chanson de Barbara Carlotti qui s'appelle Le Festival de Cannes, tout simplement.
Peut-être
et
que Nico
non, je ne sais pas si vous l'avez, mais en tout cas, c'est une chanson qui est un peu impressionniste et qui donne qui n'est pas très révélatrice de l'histoire du festival, mais qui donne un peu des petites impressions. Elle parle de David Lynch, elle parle d'Isabelle Adjani, elle parle de pas mal d'acteurs ou de metteurs en scène.
Des petites touches comme ça.
Voilà, des petites touches impressionnistes qui est assez agréable, où on pourrait trouver un autre. Par exemple, voilà, j'ai essayé de faire l'histoire du cinéma italien en 7 minutes. Bon, et j'ai réussi.
Il a réussi, hein.
Et j'ai réussi. Bon, depuis 1895, jusqu'à Nanni Moretti. Bon. Et donc, en parlant du cinéma fasciste, du cinéma italien épique, du cinéma de du néo-réalisme, de la comédie, du cinéma bis avec le western spaghetti, le peplum, etc. Et après avoir parlé du cinéma italien, on a trouvé une très belle chanson de Marie-Paul Bell qui s'appelle « Comme dans un film italien », où elle évoque les grands acteurs, les grands films, etc. Ria Mer, Nous nous sommes tant aimés, Affreux sales et méchants, Rome ville ouverte, Le voleur de bicyclette, enfin tous les chefs-d'œuvre du cinéma italien.
D'accord. Alors Nico, tu trouves ?
Alors, si vous avez la chanson de Marie-Paul Bell, Comme dans un film italien, qui est vraiment très belle, où elle évoque.
J'ai vécu la dolce vita et les drames de la jalousie. J'ai pleuré comme Gelsomina, j'ai ri comme chez Dino Risi. Réalité, Cinecittà, tout se mélange dans la vie. La vie, c'est comme dans les films italiens. Quand tout va mal, c'est que déjà tout va bien. La vie, sérieuse et comique à la fois. Riz amer, pain et chocolat. Riz amer, pain et chocolat. J'ai connu des Vitelloni et des voleurs de bicyclettes, un fanfaron, un incompris, le pigeon et la femme du prêtre. Et tous les chemins de ma vie mènent à Rome, ville ouverte. La vie, c'est comme dans les films italiens. Quand tout va mal, c'est que déjà tout va bien. La vie, dramatique et drôle, quoi qu'on dise. La grande bouffe est mort à Venise. La grande bouffe est mort à Venise. Mais les affreux, sales et méchants ne font pas toujours la grande guerre. Un parfum de femme et les tyrans freinent une journée particulière. En Italie, pour un enfant, la vie est belle, même en enfer. La vie, c'est comme dans les films italiens. Quand tout va mal, c'est que déjà tout va bien. La vie, tragique, oui, ma non troppo. Théorème et donc Camillo. Théorème et donc Camillo.
Eh, Marie-Paul Bell, elle fait ça en 2 minutes 44, donc toi, tu as juste, Daniel Chocron, 3 minutes 14 pour aller jusqu'à Nanni Moretti, parce qu'elle s'est arrêtée trop tôt.
Ah, c'est pas... Non, c'est une très belle chanson, et voilà, on essaie de travailler comme ça, c'est-à-dire, j'évoque le thème du cinéma italien, et il est illustré par cette chanson-là, voilà. Donc ça donne une autre approche, plus ludique peut-être, et je pense que c'est pas mal.
C'est une chanson qui alterne entre le majeur et le mineur, et c'est vrai que elle dit la vie tragique et comique à la fois. Enfin voilà, c'est, ça va aussi au-delà du cinéma, quoi. C'est très beau.
Et alors, au niveau des moyens, comment vous êtes arrangé?
Mais on s'arrange comme on peut. En fait, on joue dans des petits. C'est vrai que ça, c'est une question qui pourrait se poser pour beaucoup d'artistes, peut-être pour vous aussi, parce que c'est comment jouer dans des lieux à Paris. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, beaucoup. Et alors, nous, je crois que j'ai fait pas mal de salles, parce qu'on a dû faire à peu près, enfin, avec Patrick, avant que Catherine nous rejoigne, à peu près une centaine de spectacles, enfin, de conférences-spectacles, et on a joué pas mal dans des lieux dont certains ont disparu. Je me rappelle d'un lieu qui était formidable, qui était à côté du cinéma MK2 Beaumarchais, qui s'appelait le Langora, qui était un lieu merveilleux, où c'était un restaurant, un très beau restaurant, on y mangeait très bien d'ailleurs, et au premier étage, pour une fois, c'était pas dans une cave, c'était au premier étage. Il y avait une cinquantaine de places et il y avait une petite estrade, si je me rappelle bien, et un très bon piano. Et on a joué des années durant tous les spectacles que j'avais créés à l'époque, c'est-à-dire un spectacle sur Jacques Prévert, puisque j'avais aussi écrit un livre sur Prévert. Donc, je voulais faire une sorte de prolongation de mon livre. Donc, un livre sur Prévert, un spectacle sur Prévert. On avait fait aussi sur les acteurs, cette fois-ci, les acteurs qui chantent. Montand, Reggiani, Aznavour, etc. Et on avait fait donc dans ce lieu qui était merveilleux, qui pour des raisons de mauvaise gestion, semble-t-il, s'est cassé un peu la figure et donc a disparu complètement. Maintenant on trouve porte close, il n'y a plus d'Angora, il n'y a plus rien. Il y a un lieu aussi où on a joué pas mal, c'est le Tibélé, mais je sais que beaucoup de gens connaissent ce lieu. Le Tibélé, c'est une cave, voilà, qui est pas mal, il y a une cinquantaine de places. Ils ont un excellent piano et donc ça ça compte aussi pour notre pianiste, parce que comme on interprète en direct les chansons, hein, ça c'est voilà. important. Tu peux dire un petit mot justement du bureau de la musique.
Au connétable aussi, hein. Au connétable, ouais. Il y a un très bon piano. C'est vrai que c'est important pour le pianiste, comme il change à chaque fois d'instrument, par défaut, voilà, de se sentir à l'aise. Et Patrick aime beaucoup aussi le piano du connétable. Hein. Mais comme je chante sans micro. Voilà, il faut aussi qu'il m'accompagne. Il le fait très bien d'ailleurs, avec beaucoup de délicatesse et beaucoup de musicalité. Il joue sans partition non plus, hein, Patrick.
Il joue vraiment de tête. Il écoute une chanson à la radio et tout de suite après, il peut la jouer. C'est ça un peu, c'est formidable. C'est toujours impressionnant d'ailleurs pour les amateurs de musique, puis qui n'en font pas.
Pour revenir au moyen, le connétable vous a invité.
Voilà, il nous invite et on joue.
Bénévolement.
Voilà, et on joue. Et
pour le plaisir de la musique.
On joue, voilà. Donc, le Kibélé, on avait fait une petite entrée, hein, si je me rappelle bien. Ouais. Oui, voilà, ça dépend des fois.
Les entrées sont payantes, quand même.
Oui, c'est ça. Mais c'est quand même pas là qu'on gagne notre vie. Hein. Moi, je suis historien du cinéma, donc je vis de conférences beaucoup. Enfin, je fais de livres un petit peu et voilà, de différents festivals auxquels je participe.
Et pour les chanteuses, c'est aussi.
Alors, moi, j'ai travaillé avec Claude Dunne. Pendant longtemps, Claude est décédé en 2012. Claude Duneton, qui a écrit l'histoire de la chanson française, et j'ai beaucoup travaillé avec lui. On a fait le théâtre du Rond-Point, la chanson qui meurt au théâtre du Rond-Point en 2008. J'ai fait beaucoup de choses à la Vieille Grille. On parlait des lieux chantants, par exemple la Vieille Grille, typiquement, c'était un lieu formidable. Donc là, maintenant, je crois que ça existe toujours, mais un peu sous une forme un peu nouvelle, je crois, de plus de librairies, enfin, il me semble. Mais on a joué beaucoup, on jouait tous les mois à la Vieille Grille et on avait un public qui nous suivait et c'était très agréable aussi. Avec Claude, on a fait une trentaine de causeries chansons sur des thèmes différents, sur tout ce qui n'est pas enregistré de la chanson avant le droit d'enregistrement en fait. Donc vraiment l'histoire de la chanson, Béranger, Dupont, tous les grands chansonniers dont on connaît très peu l'existence finalement.
D'accord. Et tu pourrais aussi dire que tu as coordonné un livre sur Claude Duneton.
Alors voilà, j'ai fait un livre d'hommage à Claude Duneton, qui s'appelle Claude Duneton façon puzzle, qui est publié aux éditions Unicité. En fait, ce sont des hommages à Claude. Il y en a un d'Annie Ernaux. Il y en a un de Gérard Mordilla qui a fait la préface également. Il y a Jacques Bonafé aussi, Irène Jacob. D'autres participants. Il y a 107 contributeurs et en fait, on a voulu rendre un dernier hommage à Claude sous forme de livre. Donc il a été publié le mi-septembre 2023. Voilà. Il y a eu aussi un hommage qui a été fait à la Maison de la Poésie. On en a parlé dans Le Masque et la Plume. On a eu un article dans Lire. Voilà. Enfin, je veux dire, voilà, c'était une belle aventure.
Mais c'est normal parce que Claude Duneton est un personnage important dans le rapport à la langue française. Hein. C'est quelqu'un qui a la francophonie, qui a eu un rôle important et qui a fait de très belles émissions à France Culture. Mm. Qui était aussi quelqu'un de très très généreux.
Hein, oui, très formidable.
Alors, si vous avez une chanson que vous aimeriez que les auditeurs et auditrices de Radio Libertaire écoutent.
Je peux a cappella peut-être.
Bien sûr.
Je peux faire Le Temps passe de Boris Vian peut-être.
Oui, quand vous voulez.
Alors c'est une chanson effectivement écrite par Boris Vian pour Magali Noël. Alors on parle toujours de Fais-moi mal Johnny qui a été évidemment le grand titre qu'il a écrit pour elle. Il a écrit 35 chansons à peu près pour Magali Noël, qui était très amie avec lui. Et Boris Vian, qui n'avait pas de limite, qui était un auteur iconoclaste et ô combien génial, a fait cette chanson beaucoup plus tendre que d'autres avec elle. Et c'est une chanson très très belle qui s'appelle Le Temps passe.
Le Temps passe. On vous écoute.
Le temps passe et il y met le temps. Les oiseaux s'envolent sur l'étang, le ciel bas, rayé de pluie et d'ombre, pèse sur les champs sombres où rôde aussi le vent. Je suis seul depuis déjà longtemps, je suis seul, je suis triste et j'attends. Vers l'oubli glissent des jours sans nombre, le temps passe et il y met le temps.
Pourtant j'étais jeune et je valsais au bal de la princesse. Les hommes, les femmes et les rires frais tournaient, tournaient autour de mon cœur. Mais mon cœur est mort en plein printemps. Il est là tout au fond de l'étang. Dans le feu glissent des jours sans nombre. Le temps passe et il y met le temps.
Bravo, super.
Alors c'est assez peu typique des chansons de Boris Vian quand même. Voilà, c'est pas jazzy, c'est pas entraînant, mais c'est très beau. Enfin, moi je l'aime beaucoup cette chanson.
Il faut savoir que Boris Vian, puisqu'on parle de ce poète formidable, au départ n'était pas spécialement connu pour ses romans, hein, pour l'écume des jours ou pour d'autres comme l'herbe rouge ou d'autres, mais il était connu pour ses chansons. Et il en a écrit, mais quand j'ai vu ça, quand j'ai préparé le spectacle sur Boris Vian, que j'ai intitulé Un funambule au bord de l'abîme, j'étais très frappé d'une chose, c'est qu'il en a écrit près de 500. Wow. En si peu de temps, parce que Boris Vian, c'est très peu d'années d'exercice, parce qu'il est mort à 39 ans, hein, donc, presque 500 chansons, dont à peu près 150 avec Henri Salvador. Et c'est vraiment, c'est quelqu'un qui faisait au moins une création par jour. Il faisait un ou deux articles de jazz pour Jazzot, parce que c'est un très grand critique. Il faisait des chansons absolument merveilleuses, très variées, selon le musicien avec lequel il travaillait, Jimmy Walter ou d'autres. Et c'était vraiment un homme absolument touche à tout, qui a écrit un oratorio, qui a été aussi acteur de cinéma, qui a fait beaucoup de choses, qui a même été producteur de films, ça on le sait moins. Et c'est un homme absolument, absolument génial. Vraiment, c'est le terme, et je pense qu'il a bercé beaucoup, beaucoup de générations de lecteurs, parce que quand même, l'écume des jours, je l'ai relu, surtout que je l'ai relu il n'y a pas très très longtemps, c'est vraiment merveilleux. Avec cette Chloé là qui meurt d'une maladie dans le nénuphar, dans le cœur. C'est vraiment merveilleux, c'est d'une poésie à la fois douce, amère, et en même temps, c'est quelqu'un qui pouvait être aussi virulent dans son style, comme quand il s'est appelé Verdon Sullivan, hein, qu'il a écrit plusieurs livres, dont J'irai cracher sur vos tombes, qui était un livre contre le racisme, contre les féminicides, déjà à l'époque, etc. C'est vraiment très, très beau, hein, c'est vraiment un grand artiste.
Et alors, au coin de la table, qu'est-ce qu'on peut écouter?
Alors on a fait la dernière fois, on a fait un spectacle qui s'appelait Ciné Passion, où c'était Paris Cinéma, c'était sur les rapports entre le cinéma et Paris.
Voilà, les différentes représentations de Paris à l'écran, dans le cinéma français et dans le cinéma hollywoodien.
D'accord.
Voilà, et le premier qu'on a fait au Connétable...
C'était sur le cinéma, Ciné Passion,
Paris Cinéma. Voilà, on a parlé de Paris Cinéma.
Et là, dans le troisième spectacle qu'on va faire au Connétable, donc c'est le 30 mai, hein, le jeudi 30 mai à 21h, on va faire un spectacle sur les...
C'est à partir du 30 mai.
Non, on va jouer qu'une fois. Là.
On va s'arrêter pendant les vacances, les grandes vacances. On va reprendre sûrement en septembre.
D'accord. Le 30 mai, donc, ça va être à 21h, et ça va être un spectacle d'une heure et à peu près 1h20. Ça dépend si je parle beaucoup ou pas, parce que si je parle beaucoup, l'autre fois j'ai parlé pas mal pour Paris, mais bon, ça se justifie un peu, parce que quand même parler de ces merveilleux rapports entre Paris, qui est la ville du monde qui a été la plus filmée, hein, d'ailleurs, par le cinéma, plus que New York, plus que Rome, plus que toutes les autres villes autour du monde, c'est la ville qui a été le plus illustrée par les cinéastes. Et ô combien par les grands cinéastes américains comme Lubitsch, par exemple, ou Black Edwards et plein d'autres, c'est quand même extraordinaire. Donc, plus les grands films français, les films de la Nouvelle Vague, La Maman et la Putain, etc. Bref, il y en a tellement. Et donc, dans ce spectacle qui arrive le 30 mai, on va faire quelque chose sur les actrices qui ont chanté ou les chanteuses qui ont joué la comédie, parce que c'est dans les deux sens. Et c'est assez étonnant. Donc, on va prendre un programme assez... qu'on va commencer dans les années 30, mais on va terminer dans les années 2010-2020. On va peut-être prendre une très jolie chanteuse, une très belle actrice plutôt, parce que je pense que c'est une des meilleures actrices.
Donc, c'est plus vous, c'est quelqu'un d'autre.
Non, c'est moi.
Elle continuera. Et ouais. elle va chanter notamment, j'espère, une chanson d'une grande, grande actrice française qui est toute contemporaine, qui continue à tourner, qui a même réalisé un film l'année dernière sur l'occupation, qui est Sandrine Kiberlain. et Sandrine Kiberlin, qui est une actrice formidable, je trouve, une des meilleures, eh bien, elle a fait deux albums, deux disques, très très beaux, où elle se raconte un peu, mais pas que, et elle fait des portraits de femmes à la fois tendres ou parfois ironiques. Et on va essayer de voir si on peut mettre
une
chanson. On va
regarder quelle chanson on choisit pour l'instant, sans pour parler encore.
Pour terminer le programme avec quelqu'un de très contemporain, et ce qui me permettra de parler un peu de sa filmographie qui est assez belle. Et elle est encore jeune, elle est encore prometteuse, parce qu'elle a encore plein de films à faire devant elle. Et notamment, elle a fait ce film merveilleux l'année dernière, qu'on suit pendant une heure et demie, la vie d'une jeune fille parisienne qui découvre l'amour et la vie et le théâtre, car sa passion c'est le théâtre. Se passe pendant l'occupation, et l'occupation est là sans être là. On la voit elle vivre, commencer à rencontrer le théâtre, les grands artistes, etc. Et le film se termine par un seul plan alors qu'elle va jouer la main d'un milicien posée sur son épaule. Tout est dit.
D'accord.
Tout se brise à ce moment-là. Et donc, j'ai trouvé le film très beau, très intéressant. Et donc, si on peut lui rendre hommage encore plus, parce que là, c'est comme une grande actrice.
Et alors, vous apprenez le texte au fur et à mesure
ou, oui, voilà, on se met d'accord sur les chansons. Là, il y aura aussi une chanson de Jeanne Moreau, il y aura Suzy Delair.
Mais vous avez toujours un texte devant vous.
Alors, moi, je lis...
Je vais essayer de chanter la chanson de Jeanne Moreau, si c'est possible.
Jeanne Moreau, oui.
C'est une chanson... Alors, je dis deux choses sur Jeanne Moreau. D'abord, c'est une des deux, trois, quatre plus grandes actrices françaises de tous les temps, je pense. C'est une actrice d'une intelligence supérieure. Elle a 135 films à son actif, ce qui est beaucoup, hein, parce que tourner comme ça aussi d'une manière aussi importante et sur un aussi grand nombre d'années. Et elle a une filmographie merveilleuse, parce qu'elle a tourné pas qu'avec les cinéastes français, mais avec des grands cinéastes internationaux, comme Luis Buñuel, ou Michelangelo Antonioni, ne serait-ce que ça, déjà, bon, ça pourrait suffire pour une carrière. Mais en plus, elle a fait beaucoup de choses. Elle a fait trois longs métrages de très belle qualité. Et elle a, à partir des années 60, rencontré deux artistes qui lui ont fait des chansons sur mesure merveilleuses. Norge, un poète belge, et surtout Rezvani, qui a travaillé évidemment sur Pierrot le Fou, qui a fait Le Tourbillon, cette fameuse chanson que tout le monde connaît de Jeanne Moreau. Mais à côté de ça, il lui a fait d'autres chansons pas connues du tout, ou en tout cas, parce qu'on a du mal à trouver peut-être un peu les disques de Jeanne Moreau. Et il y a eu deux albums avec Rezvani, et dans un des deux albums, il y a cette chanson que Catherine va chanter, qui s'appelle « L'enfant que j'étais ». C'est l'histoire d'une jeune fille, d'une enfant, qui demande des comptes à la femme devenue adulte. Et c'est, à moi, je trouve que c'est une chanson absolument extraordinaire.
L'enfant que j'étais me tourmente, elle est gentille, elle est charmante, mais je la trouve trop présente. Elle me traite sans égard, elle m'obsède, elle m'égare, elle transparaît dans mes regards. L'enfant que j'étais méchante, pieds joints dans mon cœur, elle se plante, elle réclame, elle est violente. Comment pourras-tu l'apaiser? Toujours elle se sent lésée et veut bien plus que des baisers. Ah, 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 ah. L'enfant en moi est désarmante, elle veut être plus qu'une amante et l'idée de la mort la hante. Je voudrais pouvoir l'endormir ou peut-être la faire sourire, exaucer un de ses désirs. Cet enfant trop souvent se plaint, qui donc la prendra par la main et lui parlera de demain. Je ne puis m'en débarrasser, car elle attend jamais lassée, obstinément les yeux baissés. Ah, 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 ah. Ah, cet enfant vivrait au soleil, rêverait au bruit des abeilles, les doigts égrenant des groseilles. Elle n'aime que le bruit de l'eau, le goût de l'amour sur sa peau, elle ne reçoit que les cadeaux. Cet enfant est vraiment démente, elle se plaint, elle se lamente, souvent je hais cette mendiante. Elle ignore le parfum des fleurs, ne reconnaît plus les couleurs, confond le rire avec les pleurs. Ô douce enfant, laisse-moi vivre.
Bravo.
Merci.
Et qu'est-ce que tu veux dire?
Le petit grain de plomb qui faucha le gros lapin, le petit couteau dans le cœur de Marie, le petit éclair sur l'épaule de Firmin. Mon Dieu, tout ça, c'est de la mort en série. Le petit crochet dans la bouche du gardon, le petit poison qui mordit le sang d'Adèle, le petit microbe dans l'intestin de Raymond. Mon Dieu, tout ça, c'est de la mort naturelle. Le petit vent creux dans les poumons de Julot, le petit lacet qui serra le cou du Loir, le petit marteau sur la caboche du veau. Mon Dieu, tout ça, c'est de la mort accessoire. Mais le petit nom sur les lèvres d'Anna, quand je lui demande encore un peu d'amour, ça c'est de l'horreur, ça c'est de l'assassinat, de la mort qui pue et de la griffe de vautour. Anna ma douce, Anna mon petit mouton, toutes les autres morts, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Mais ce petit nom qui répond toujours non, ce petit nom-là, c'est de la mort dégueulasse.
Ça, c'était un petit peu d'acidité avec Jeanne Moreau interprétant le petit nom de Norge.
Super. Norge, oui. Voilà.
Donc, ce qui est intéressant, pour terminer sur les, peut-être les conférences spectacles, ce qui est intéressant, c'est qu'on essaie toujours de faire quelque chose à la fois de ludique, quelque chose qui n'est pas très, qui est agréable à écouter. Les chansons sont plutôt belles, même très belles, des certains classiques des fois. Et en même temps, moi, j'essaie toujours d'avoir un discours qui soit plus de l'ordre du conte.
D'accord.
Je raconte. D'ailleurs, sur l'affiche, on met souvent Daniel Chocron, narrateur. Donc, j'essaie de conter un peu l'histoire, conteur. Comme j'ai la chance d'aimer ça et de connaître un peu l'histoire du cinéma. Donc, ça me permet de raconter un peu, comme ça, à ma manière, des choses. Et je travaille beaucoup quand même si je lis travaille sans notes, je travaille beaucoup en amont pour que tout ce que je dis soit vérifiable et qu'il n'y ait aucune erreur. Ça, c'est important pour moi.
Très bien. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter ?
Bien, on serait heureux et ravis d'accueillir les auditeurs de Radio Libertaire le 30 mai. On pourra boire un verre avec eux, voilà, d'ailleurs, hein, parce qu'on aime bien ça. Ouais. Et après les spectacles,
Et il n'y a que le 30 mai ou il y a d'autres dates ?
On aura d'autres dates, mais en tout cas, celle qu'on peut vous annoncer, c'est le 30 mai, jeudi 30 mai, voilà, à 21h.
À 21h.
Au coin d'étape, c'est un petit lieu charmant, 55 rue des Archives, mais je pense que les auditeurs connaissent.
Il faut réserver, il faut.
Il y a le numéro de réservation sur l'affiche. Vous pouvez aller sur le site lesconférencesillustrées.fr. On a un site où sont marquées toutes nos dates et annoncées notre programme. Voilà. Nos programmes. Voilà.
D'accord.
Alors une petite anecdote peut-être, je suis très très lié avec une personne, une dame, qui a été mariée avec l'un des directeurs de Radio Libertaire.
Ah bon ?
Yves Perrault, ça vous dit quelque chose ?
Oui.
Voilà.
D'accord. Très bien. Bon, est-ce que vous avez autre chose à rajouter ?
Non, voilà. Merci pour votre invitation.
Merci pour votre invitation. On donne rendez-vous aux auditeurs et on prendra un petit verre avec eux s'ils veulent bien.
Avec plaisir.
Rappelez encore l'adresse.
Donc c'est le 55 rue des Archives, le Connétable.
55 rue des Archives.
Le Connétable, à 21h le 30 mai.
C'est dans le 4e, non ?
Dans le 3e.
Dans le 3e
arrondissement. Métro
Rambuteau. Ou Hôtel de Ville.
Le spectacle s'appelle le Ciné Étoile. Voilà.
On peut y manger, on peut...
Ah oui, bien sûr, oui. Avant,
après.
On peut
manger.
Voilà,
ah d'accord. Voilà. Et c'est bien ?
Ah, oui, c'est très bon. Oui, c'est très très bon. Mais ce lieu-là est assez mythique parce que on a parlé de la vieille grille où ont débuté des gens comme Pierre Barou, Jacques Higelin, Brigitte Fontaine, etc. Mais au Connétable, c'était un lieu qui appartenait à un grand chanteur de la rive gauche qui s'appelait Maurice Fanon. qui avait fait La Petite Juive, l'écharpe, si je porte à mon cou cette écharpe de soie, en souvenir de toi, etc., en souvenir de nous. Enfin, c'était un type formidable, et donc qui avait ouvert ce petit lieu, voilà, et c'est sa compagne, après sa mort, c'est sa compagne, je crois qu'elle s'appelle Françoise d'ailleurs, sa compagne qui a pris le relais du lieu. Voilà. Donc ça reste dans l'esprit vraiment chansonnier de la belle époque, les années 50 et 60 à Paris.
Et alors, vous, est-ce que vous filmez également en tant que cinéaste ou...
Moi, je ne suis pas cinéaste, je suis du cinéma, d'accord. C'est déjà pas mal. Mais non, de temps en temps, des amis nous filment, oui, évidemment, par amitié. Là, dernièrement, on nous a filmé, oui, des petites vidéos comme ça et tout. Mm-hmm. Mais en même temps, ce type de spectacle, même si on espère qu'il plaise à beaucoup de gens, ne peut pas plaire à tout le monde non plus, parce que ça demande quand même une certaine écoute. Mm-hmm. Parce que, bon, je parle de choses qui sont un peu anciennes. Et bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, essayer de faire quelque chose d'historique, qui se suit, etc., c'est pas toujours évident pour au niveau de l'attention. Vous savez, il y a des fois des gens, des jeunes qui disent qu'ils ne savaient pas que le cinéma avait été créé en 1895. L'autre fois, j'ai eu une réponse assez drôle. On m'a dit oui, le cinéma, c'est au moment de la Révolution française. C'est le premier événement politique qui a été filmé par le cinéma. Vous voyez, donc on en est là. Et il y a beaucoup de jeunes qui ne savent pas que le cinéma a été muet, ils ne savent pas que le cinéma a été en noir et blanc. Et quand on essaie de leur faire découvrir les plus grands films du muet, qui sont souvent les plus grands films du monde, hein, comme par exemple Le Cuirassé Potemkin, L'Aurore, et d'autres films de cet acabit-là, ils ont du mal. Ils ont du mal, comme s'il fallait que le cinéma soit très rapide, avec des plans de moins de 10 secondes, etc. Alors que les grands films du cinéma, il faut rentrer dedans. C'est comme dans les grands œuvres musicales ou picturales, c'est pas donné comme ça, il faut y aller, quoi. Il faut participer aussi à ce que veut nous dire le metteur en scène. Et donc, c'est vrai que c'est un combat de tous les instants. Et nous, on essaie modestement de faire découvrir l'histoire du cinéma, l'esthétique du cinéma au maximum de gens. Et moi, par mes conférences, quand je suis seul, j'essaie aussi de faire découvrir le cinéma. Alors, comme j'en ai fait plus de 2000 dans ma vie de conférences, donc ça commence à faire. Donc, j'ai quand même, j'espère, influencer certains auditeurs ou spectateurs au cinéma, quoi, et à la beauté de cet art.
Et l'âge moyen du public ?
C'est variable. C'est d'abord, il y a aussi nos amis qui viennent, hein, ils nous encouragent, hein, c'est vrai. Hein. Mais en moyenne, c'est une cinquantaine d'années quand même. Je pense que même s'il y a des gens curieux qui ont 20 ans, 25 ans, c'est pas évident de leur parler de Fréhel. Même si on peut éventuellement leur faire connaître Fréhel, bien sûr, à travers ses nombreux albums ou ses 35 films qu'elle a tournés. Mais c'est pas évident. Par exemple, Mistinguette. Moi, au début, je voulais faire quelque chose autour de Mistinguette. Parce qu'en plus, comme je mélange cinéma et chanson, ça correspondait très bien. Parce qu'on ne sait pas, mais Mistinguette a fait 70 films quand même, vous voyez. Bon, on ne sait pas. Mais dès que je commençais à parler de ça, les gens... Ça les intéressait. Ils pensaient que c'était vieillot, que c'était bon, dépassé, etc. Mais bon, je veux dire, il ne faut pas avoir vécu cette époque-là pour l'aimer, je veux dire. On n'a pas vécu l'époque de Jean-Sébastien Bach, et pourtant, beaucoup de gens l'aiment, vous voyez. Oui. On n'a pas vécu l'époque, je ne sais pas moi, de James Stewart, et pourtant, c'est un immense acteur. Donc, vous voyez, je pense que l'art n'a pas de... L'art
intemporel.
Est intemporel, je pense, oui, c'est ça. Et donc, ça suit, et bon, il n'y a pas de période dans l'art, quoi. Il y a des périodes, évidemment, esthétiques, artistiques, mais il n'y a pas... Tout est beau, tout est intéressant, et on peut aimer. Moi, j'aime autant le cinéma des années 10, années 20, que j'aime la Nouvelle Vague, que j'aime le cinéma italien, le cinéma américain, évidemment, ou le western, ou Kenji Mizoguchi, auquel j'ai consacré un livre. Bon, peu importe, je veux dire, j'aime tout ce qui est symbole de qualité, de beauté, et qui fait avancer, qui rend meilleur, voilà. Bon, par exemple... Quand j'ai fait ce livre sur Mizoguchi, je ne savais pas qui est le plus grand cinéaste japonais et un des 5 ou 6 plus grands cinéastes de l'histoire du cinéma. Et je n'arrivais pas à trouver l'axe. Pourtant, je le connaissais bien, mais je n'arrivais pas à trouver l'axe. Et finalement, je me suis dit, mais pourquoi pas faire tout simplement autour des femmes ? Parce que c'est le cinéaste qui a le mieux parlé des femmes de toute l'histoire du cinéma. Il a fait 100 films. Et sur les 100 films, il y en a 98 qui sont liés, dont les femmes sont les rôles principaux. Faire des films féministes au Japon, dans un pays, dans les pays du samouraï et dans le pays de l'empereur, voyez, qui ne jurait que par le côté militaire, je trouve ça absolument génial. Et quand on voit les films de Mizoguchi, ben évidemment, là on se dit quand même que le cinéma, c'était quand même quelque chose.
Voilà, un autre homme qui était passionné par les femmes aussi. Moi, j'ai écrit un livre sur Pierre-Auguste Renoir, voilà, et ses rapports à la musique. Et c'est vrai que Renoir aimait avec son pinceau les femmes comme jamais on aurait imaginé, quoi. Mmh. Et derrière chaque tableau de Renoir se cache une chanson, en fait, parce que ses modèles chantaient. Lui, il chantait en peignant. Il était l'élève de Charles Gounod, petit. Il était à l'église Saint-Eustache. Il chantait des solis. Et il a choisi finalement, peut-être pour notre plus grand bonheur, la peinture. Mais il a toujours continué à chanter, voilà. Et c'est vrai que...
Il est d'une belle famille, parce que son fils, Jean, est le plus grand cinéaste français de l'histoire, quand même. Hein, donc, c'est quand même pas mal.
Voilà, hein, et c'est vrai, famille. Quand on parle de beauté, d'art, voilà, c'est vraiment intemporel. Et un Renoir, je pense que Renoir a libéré la femme du carcan, de son corset. Il n'y aurait peut-être pas eu Brigitte Bardot s'il n'y avait pas eu un Renoir. Enfin, voilà. Donc,
l'amour de la vie,
il célèbre la joie. Et voilà, après, c'est l'esthétique du bonheur, mais très musical aussi derrière, en fait.
Voilà. Eh ben, un grand merci, en tout cas.
Merci à vous.
Voilà. Du coup, tu as quelque chose à proposer ?
L'oiseau qui vole si doucement, l'oiseau rouge et tiède comme le sang, l'oiseau si tendre, l'oiseau moqueur, l'oiseau qui soudain prend peur, l'oiseau qui soudain se cogne, l'oiseau qui voudrait s'enfuir, l'oiseau seul et affolé, l'oiseau qui voudrait en vivre, l'oiseau qui voudrait chanter, l'oiseau qui voudrait mourir, l'oiseau qui voudrait crier,
et voilà, Jacques Prévert, on l'apprend à l'élémentaire et puis on le redécouvre après. Musique de...
Alors, c'est une musique de...
Cosma. C'est Cosma, oui.
Prévert-Cosma, voilà, c'est ça.
C'est la grande époque.
Avec un K. Cosma avec un K, voilà. Non, parce que... Voilà.
Très bien. Bon, mais je crois qu'on peut passer à la suite.
Avec plaisir.
Voilà. Donc, représentation.
Rebonjour. Donc, c'est un spectacle qui s'appelle Tant que nos cœurs flamboient. Donc, vous êtes venu voir au mois d'avril, puisque nous avons joué à l'Essaillon Théâtre.
Très beau spectacle.
Merci. Donc, au départ, c'est moi qui avais passé une commande à l'auteur qui s'appelle Laurent Contamin et je lui avais demandé un spectacle sur Louise Michel. Donc, il m'a dit d'accord.
C'est Louise Michel.
Parce que je trouve qu'elle avait des revendications qui, curieusement, 150 ans après, sont toujours d'actualité. Et voilà, j'avais envie de faire un spectacle qui, en plus d'être théâtral, porte aussi des idées.
Engagé.
Voilà, oui, c'est ça, un spectacle engagé, effectivement, de par mon histoire, puisque moi, je suis réfugiée politique, donc ça me semble. Ça me semblait logique au bout d'un moment, effectivement, de se dire que ça ne me suffisait plus, on va dire, d'être sur scène de manière distrayante, même si je trouve ça super. Mais j'avais envie de rajouter autre chose, une autre dimension, parce que je pense que les deux sont tout à fait compatibles. Et donc j'ai demandé donc à cet auteur que je connais depuis 35 ans puisqu'on était ensemble au conservatoire. Je lui ai demandé donc ce spectacle sur Louise Michel. Donc au début, il m'a dit oui, très bien. Et puis il m'a rappelé quelques semaines après en me disant il y a déjà pas mal de spectacles sur Louise Michel qui sont plutôt bien faits. On se base sur ses mémoires, sur ses écrits. Et il m'a dit, je vois pas ce que je peux faire de mieux, de différent par rapport à ce qui existe déjà. Et puis, il a rajouté, parce que comme je disais tout à l'heure, on se connaît depuis très longtemps. Lui, il avait connu mes parents. Et donc, il m'a proposé de faire un parallèle entre ce destin de Louise Michel, qui a été exilée par rapport à son engagement politique, et le destin de ma mère au Chili, au moment d'Allende. Donc, il y a eu le coup d'État le 11 septembre 1973. Mon père a été arrêté. Et ma mère donc a fait tout ce qu'elle a pu pour le faire libérer. Par un concours de circonstances, elle a réussi effectivement à ce que mon père ait un laissez-passer de 24 heures qui nous a permis d'entrer à l'ambassade de France et d'arriver en France. Donc moi, j'avais 5 ans. Et donc, Laurent m'a dit, mais pourquoi pas faire un parallèle, effectivement, parce qu'on peut aussi se dire que les idées de désir d'égalité par rapport aux différentes classes sociales était quand même dans le programme de Salvador Allende, qui a été lui élu démocratiquement, il faut le rappeler quand même. Et donc, il trouvait que ça se répondait historiquement. Et donc, il m'a proposé d'écrire une histoire qui mettait en parallèle notre destin et celui de ma mère, donc, qui s'est retrouvée exilée en France. Et le destin de Louise Michel, donc un siècle plus tôt, qui s'est retrouvée exilée de France vers la Nouvelle-Calédonie. C'était son idée.
Voilà. Et l'origine, c'est chilien.
De qui ? Moi ?
Oui.
Moi, oui. Moi, je suis chilienne au départ. Maintenant, j'ai ma nationalité française depuis de nombreuses années, mais sinon, je suis née au Chili, de parents chiliens. Je n'avais, aucune raison de me retrouver en France.
Voilà, c'est ça. Il y a aucune... Quelle est l'autre raison ?
Ben, la seule raison, c'est qu'au moment où mon père a eu un laissez-passer de 24 heures pour quitter le pays, la seule ambassade à ce moment-là où il y avait de la place,
c'est la France.
Suite effectivement au coup d'État, c'était l'ambassade française.
D'accord.
Puisque Pierre de Menton et son épouse Françoise, qui ont vu ce qui se passait au Chili, sont intervenus et ont vraiment fait des pieds et des mains auprès du gouvernement français qui était un petit peu froid par rapport à l'idée d'accueillir des réfugiés. Ils ont dit non, mais vous vous rendez pas compte de ce qui se passe ici, comme c'est sanglant et comme c'est terrible. Il faut qu'on sauve des gens. Et donc grâce à lui, effectivement, on a été sauvés parmi des milliers d'autres Chiliens qui sont arrivés en France.
Et actuellement, c'en est où ?
Alors actuellement, c'est très compliqué. Donc il y a eu en 2019 un mouvement à nouveau, effectivement, qui est parti par rapport à une révolte étudiante qui demandait à nouveau de l'égalité, etc. Il y a eu des élections. Peu de temps après, donc un jeune président, Gabriel Boric, a été élu avec une coalition de gauche. Et il a proposé l'année dernière une nouvelle constitution, puisqu'il faut savoir qu'à l'heure actuelle, en tout cas à ce moment-là, c'était toujours la constitution de Pinochet qui était en vigueur, alors que donc on sait que Pinochet était un dictateur terrible, et la constitution qui est appliquée dans le pays est toujours la sienne.
Elle est toujours en vigueur.
Encore aujourd'hui, oui. Ah ouais. Donc ce nouveau président a fait donc, comme je disais, c'est une coalition de gauche qui incluait aussi les peuples indigènes, enfin beaucoup de différents types de la population qui étaient jusque-là exclus totalement de la vie politique et de la vie citoyenne. Et donc ils ont constitué, il y a eu une rédaction qui a duré plusieurs mois, une nouvelle constitution qui a été soumise au vote et qui a été refusée. Parce que beaucoup trop, je pense, ambitieuse au niveau de l'égalité. Il faut savoir qu'au Chili, tout est vendu. Les glaciers sont vendus, les eaux territoriales, la mer est vendue par parcelles. Mmh. Tout est vendu, effectivement, aux multinationales, aux japonaises, états-uniennes, etc. Même des pays nordiques,
la Norvège, par exemple. Parce que le Chili avait une propriété là-dessus.
Bah, comme en France, les eaux territoriales françaises. Il y a des limites qui disent les eaux territoriales françaises vont de la côte jusqu'à tant de kilomètres. Et ça appartient à la France, ça appartient à l'État. Et bien, au Chili, ça appartient pas à l'État, c'est vendu, c'est privatisé.
D'accord.
Donc, les agriculteurs, les pêcheurs doivent payer pour aller pêcher, doivent payer à des multinationales pour pouvoir aller pêcher et vivre.
Quoi, et le président là-dedans
Alors, le président, voilà, tout ça, ça faisait partie des choses qu'il voulait changer. Il voulait renationaliser tout ça. Il voulait également rendre les terres au peuple indigène, les terres qui ont été volées il y a des siècles. Donc, évidemment, c'était beaucoup trop ambitieux, je pense, et beaucoup trop égalitaire, puisque la famille appartient à une dizaine de... Enfin, pardon, le pays appartient à une dizaine de familles qui possèdent effectivement la majorité des richesses. Donc cette constitution a été refusée. Après ça, donc, l'opposition a dit, ben, nous, on va faire une nouvelle constitution. Ils ont rédigé une nouvelle constitution qui est encore plus... on va dire arriéré, encore plus de droite que la constitution de Pinochet, c'est-à-dire qu'il revenait sur le droit au divorce, sur le droit à l'avortement, sur tout un tas de choses, qui a été refusée aussi. Donc, voilà, on en est là, c'est-à-dire qu'actuellement, c'est encore la constitution de Pinochet, point barre, et il n'y a rien qui bouge, parce qu'il y a quand même beaucoup de pouvoir, comme je disais, des familles historiquement puissantes, et qui sont encore là, et qui mettre un peu des bâtons dans les roues à tous ceux qui veulent réformer des choses et aller dans le sens du partage et de l'égalité. Voilà, donc malheureusement, voilà, on en est toujours à demander des choses du temps de la Commune de Paris, finalement.
La place de Louise Michel, là-dedans.
Voilà, donc il y avait ce parallèle, effectivement, entre l'exil, comme je disais tout à l'heure, l'exil de Louise Michel, l'exil de ma mère, les revendications qui sont effectivement toujours les mêmes. Et donc, la partie Louise Michel, effectivement, était ma commande de départ, si on peut dire. Donc, effectivement, c'est la partie plus théâtrale. Puisque la première partie, qui est plus autobiographique, je raconte... vraiment, je parle au public de manière peut-être un peu comme le fait Daniel avec son public. C'est-à-dire que je raconte des choses, je m'adresse directement aux gens. Et puis après, ça bascule un petit peu sur la partie Louise Michel qui devient plus théâtrale.
Donc il y a un personnage qui joue Louise Michel.
Bah, je suis toute seule sur scène, de toute façon. D'accord. Donc voilà, donc ça passe de...
Donc c'est un monologue, quelque part.
Tout à fait. C'est un monologue. Après, les gens qui voient le spectacle disent oui, mais non, parce qu'on voit quand même plusieurs personnages. Mais en tant qu'actrice sur scène, je suis toute seule, effectivement. Wow. Donc,
Je peux poser une question ?
Oui.
Oui, je voulais vous poser une question. Est-ce que la partie autobiographique, c'est d'après des éléments que votre maman vous a donnés de sa vie au Chili, ou c'est vous-même qui les avez inventés ?
Ah, j'ai pas inventé, j'ai rien inventé. Alors après, l'auteur a pris des libertés, on va dire, d'auteur, mais tout ce que je lui ai raconté, c'était mes souvenirs, ou des choses effectivement qui ont été racontées, soit par mes parents, soit par d'autres membres de la famille, quand on échangeait sur ces sujets, quoi. D'accord.
Les archives.
Les archives familiales et historiques proches, on va dire. Mais l'auteur, effectivement, après, a inventé des choses qui permettaient un lien aussi, un fil rouge plus intéressant pour le public au niveau dramaturgique, pour passer d'un moment du spectacle à un autre. Mais effectivement, on a parlé pendant des heures. Il me posait des questions. Ensuite, il me rappelait pour me reposer des questions, pour écrire des choses. Et c'est vrai qu'au début, quand j'ai reçu le texte, l'idée me semblait super, mais quand j'ai reçu le texte et que j'ai lu toute la première partie, qui est la plus grande partie du spectacle, en fait, autobiographique, j'étais extrêmement bouleversée. Et j'ai pleuré pendant des heures, et puis j'ai fini par l'appeler en étant convaincue que je n'arriverais pas à jouer ça, parce que c'était beaucoup trop difficile. Mes parents, maintenant, sont morts tous les deux, donc ça me remettait aussi dans une perte. C'était très très
pour
très,
jouer
très difficile.
Louise Michel, est-ce que vous avez des textes de Louise Michel ou...
Alors il y a une partie, effectivement, sur la partie de Louise Michel, par contre, c'était beaucoup plus facile, entre guillemets, parce que il y a cette conviction qui est un petit peu la mienne quand même, hein, par rapport à son désir de liberté, d'égalité, et puis il y a le côté personnage quand même aussi plus où on peut mettre une distance facilement. Et donc dans l'écriture, il y a une partie qu'on peut ne pas se rendre compte qu'il y a deux parties différentes. Mais il y a une partie que l'auteur a écrit à la manière de Louise Michel, en se basant sur ses écrits, mais où il a réécrit. Et puis, il y a une partie aussi dans le texte qui est vraiment tirée de ses mémoires. Donc, les deux cohabitent. Et puis, il y a cette idée que le public adore aussi, c'est qu'il y a une troisième partie, qui est une partie où on demande au public de participer. Mmh. C'est-à-dire qu'on fait un petit bilan de tout ça. Voilà, au 19e, c'était ça. Au 20e, c'était
comment
ça.
Comment y participer ? Comment ?
Alors, je propose au public, en fait, de donner une idée. Je distribue des petits papiers. Ah. Et je demande au public de noter peut-être un verbe, un mot, une phrase courte pour donner une idée de comment on pourrait aujourd'hui vivre plus librement, plus égalitairement et plus fraternellement. Mmh. Donc je distribue ces petits papiers. Pendant ce temps-là, je mets un enregistrement du temps des cerises. Donc on en revient à la musique. Donc oui. Je chante...
Votre musique, Nicolas, peut-être ? T'aurais quelque chose à nous proposer ?
Un petit temps des cerises.
Ah. Beaucoup de versions.
Il y a plein de versions différentes, effectivement. Et je continue ou on passe à la musique ? Ou pendant que ça cherche, je... Donc pendant cette chanson, je distribue ces petits papiers. Les gens notent ces idées-là. Mmh. Je ramasse les papiers. Et je les échange contre un, parce qu'on est dans le partage quand même, contre un petit gâteau qui s'appelle, ce sont des petits gâteaux typiques chiliens qui s'appellent alfajores, qui sont des petits gâteaux à la confiture de lait. Donc quand on me donne un petit papier, je donne un petit gâteau.
Comment tu dis alfa ?
Alfajores.
Ça veut dire quoi ?
C'est le nom, c'est un nom propre, ça veut rien dire, ça s'appelle comme ça, comme...
L'inventeur du gâteau.
je crois pas que ce soit un nom propre, mais non. Bon, comme on dit, un millefeuille, je sais pas quoi, enfin voilà, c'est le nom du gâteau. Et donc je colle ensuite ces petits papiers en les lisant sur un paravent avec des grandes fleurs rouges, puisque un des fils rouges aussi de ce spectacle, ce sont les arbres qu'on appelle les flamboyants, qui existe au Chili et qui existe aussi en Nouvelle-Calédonie, où Louise Michel a été exilée.
D'accord. Oui.
Quand nous chanterons le temps des cerises et guérosignol et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises, où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerises d'amour aux robes pareilles, tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises, pendant de corail qu'on cueille en rêvant. Vous en serez au temps des cerises, si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai pas sans souffrir un jour. Quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi des peines d'amour. J'aimerais toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune, en m'étant offerte, ne pourra jamais fermer ma douleur. J'aimerais toujours le temps des cerises et le souvenir
que je garde au cœur.
Une voix reconnaissable entre toutes, celle de Michel Bernard, qui a d'ailleurs consacré un spectacle entier cantate pour Louise Michel. Et je signale à l'algorithme de YouTube quand même que quand on cherche cantate pour Louise Michel ou Michel Bernard interprète des textes de Louise Michel, YouTube, avec votre algorithme, ne l'appelez pas Michel Louise comme si c'était un mec quand même, s'il vous plaît.
Alors, donc, l'histoire ?
Oui, alors, j'avais lu que l'histoire du temps des cerises, en tout cas du titre, c'est que Jean-Baptiste Clément avait écrit beaucoup de chansons très engagées. Et il y avait eu un procès contre lui, parce que effectivement ça allait contre l'ordre public, etc. On lui avait dit, mais vous n'auriez qu'à faire des chansons sur les saisons, le temps qui passe, des choses qui ne dérangent personne. Et donc, suite à ça, il a intitulé sa chanson « Le temps des cerises » en disant « Voilà, j'écris une chanson sur le printemps
». Tout simplement.
Tout simplement, mais voilà, on sait bien quel était le sous-titre et le deuxième degré de tout ça.
D'accord.
Voilà pour la chanson.
Alors, est-ce que vous avez autre chose à rajouter ?
Oui, donc ce spectacle, en fait, a eu plusieurs vies, en tout cas. Je l'avais commandé à Laurent Contamin, donc en 2018. Il m'a donné le texte en 2019. Et il a été créé début 2020, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, forcément, toutes les dates qui suivaient ont été, comme pour beaucoup, totalement annulées. Et puis, ça me semblait compliqué, en fait, de me dire, mais reprendre ça, parce que c'est quand même un seul en scène. Je suis toute seule sur scène pendant 1h15. Donc, c'est quand même un gros travail de se remettre dedans, on va dire, ne serait-ce que par rapport à la mémorisation du texte, tout ce que ça engage aussi au niveau émotionnel. Et puis, donc, il y avait, comme je disais tout à l'heure, les commémorations du cinquantenaire du coup d'État au Chili en septembre dernier, donc le 11 septembre 2023. Et je me suis dit, en début d'année dernière, que c'était, s'il fallait le reprendre, c'était à ce moment-là. Donc, j'ai eu beaucoup de chance parce que toutes les personnes que j'ai contactées dans ce cadre-là, les associations chiliennes ou des associations un peu engagées, ont toutes répondu favorablement. Donc, il y a eu une tournée très, très sympa à Bruxelles, à Lausanne, à Genève, plus les villes en région parisienne, au sud de la France aussi, sachant que ma compagnie est en Normandie. Il y a eu pas mal de dates aussi en Normandie. Je voulais que ce soit quelque chose aussi d'engagé. J'ai fait des représentations au bénéfice d'Amnesty International, des représentations au bénéfice de la CIMAD. Le spectacle continue donc son chemin. Voilà, donc il y a eu les représentations effectivement à l'Essaillon en avril. Il y en aura d'autres à la rentrée en Normandie et puis à Champs-sur-Marne aussi la saison prochaine et toutes les représentations scolaires parce que je vais aussi dans les établissements collèges pour les élèves de 3e puisque la commune est au programme d'histoire et aussi dans les lycées puisque le coup d'État au Chili est au programme des premières et terminales qui font la spécialité histoire. D'accord. Donc si vous êtes intéressé, si vous êtes professeur et que vous voulez avoir le spectacle dans votre établissement, c'est tout à fait possible. Et voilà, il faut nous contacter sur le site de la compagnie qui est souffle14.com.
Voilà. Et vous avez été un petit peu aidé, sponsorisé ?
Alors, au moment de la création, oui. On a eu plusieurs résidences de création dans des lieux et avec des compagnies normandes. Donc, le Tanit Théâtre à Lisieux, la compagnie Couverture à Livaro, le Batouline qui est la salle de spectacle aussi de Honfleur. Donc ça, on a eu des aides au moment de la création. Après, au moment de la reprise, non, c'était... mis à part les sessions pour les dates vendues. Mais... le travail après de reprise du spectacle, là, c'était vraiment là. On s'est débrouillé tout seul.
Le ministère de la Culture, vous avez aidé ?
Non, pas vraiment, non.
Ah bon ?
Non, c'est compliqué. C'est compliqué en province. En tout cas, moi, il semblerait que Honfleur, qui est donc à 60 km de la préfecture du Calvados, c'est beaucoup trop loin pour avoir quelqu'un qui se déplace, puisque depuis presque 25 ans que nous sommes à Honfleur, nous n'avons jamais réussi à avoir quelqu'un Bref. Mais voilà, on s'en occupe plus, en fait. On fait ce qu'on a envie de faire. Voilà, la compagnie décide de faire des projets et on trouve des financements autres pour pouvoir faire ce qu'on a à faire sans avoir à rendre des comptes de nos choix.
La durée du spectacle, c'est
1h10 à peu près. Oui, ça dépend parce que, comme je vous disais tout à l'heure, il y a une partie interactive. D'accord. Donc, ça dépend toujours s'il y a 5 personnes qui écrivent des idées ou si on a 25, 30. Donc là, forcément, ça prend un peu plus de temps.
C'est plutôt des jeunes qui viennent, un âge moyen.
Oui, il y a un petit peu tout. Il y a un petit peu tous les âges. En public scolaire, forcément, c'est vraiment les classes d'âge des établissements. Sinon, en tout public, on arrive à avoir une palette assez ouverte de personnes qui viennent pour des raisons différentes. Certaines parce que y a ce côté engagé en fait qui leur plaît de se dire un spectacle qui va distraire, parce que ce qui plaît en général, c'est que il y a un côté quand même ludique et gai, et c'est pas se veut pas donneur de leçons et ça se veut pas triste. Voilà, c'est vraiment un moment de partage, d'échange. D'accord. et qui reste dans la joie quand même.
Il y a un débat après avec le public.
Alors parfois, oui, parfois les organisateurs demandent à ce qu'il y ait un échange après avec le public, ce qui a été assez émouvant effectivement lors de cette tournée en Europe pour des associations chiliennes, c'est qu'il y avait donc forcément public chilien qui avait vécu le coup d'État, et donc voyais en fait les gens dans la salle qui pleuraient, etc. Donc ça c'était assez émouvant de voir tous ces gens à qui ça parlait directement. Ou d'autres personnes qui connaissaient pas du tout et qui redécouvraient, en tout cas, parce qu'ils avaient vaguement peut-être entendu parler d'Allende en 73. Et c'est vrai qu'il y a eu une grande mobilisation d'accueil pour les réfugiés à ce moment-là. Et je me rends compte que...
Par rapport aux autorités chiliennes, est-ce que...
Comment ?
Par rapport aux autorités chiliennes actuellement ?
Il n'y a pas de lien parce que le spectacle est en français. Donc en fait, pour l'instant, il n'a pas été joué du tout au Chili. Il est vraiment joué en France. Donc j'ai invité quand on a joué à Paris, j'ai invité le consul évidemment, mais bon, je pense qu'il est très occupé, donc il n'est pas venu. Bien que d'autres personnes le connaissent plus ou moins.
Ils sont assez ouverts.
Oui, je pense. Oui, puisque de toute façon, comme je disais tout à l'heure, l'actuel président est de gauche. Après, il n'a pas connaissance de mon spectacle. Mais en tout cas, voilà, ce qui est très, très émouvant, c'est de se dire que les gens aiment se dire qu'on peut encore faire des choses, on peut encore débattre de comment améliorer notre monde.
Quelle est la situation actuelle maintenant du Chili ?
C'est ce président de gauche qui est au pouvoir, mais qui est un petit peu entravé quand même par les autres forces politiques opposées. Et comme en Espagne, on voit des montées effectivement de l'extrême droite qui reviennent et qui sont toujours inquiétantes et toujours présentes. Oui.
Nico ?
Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él. Con él, con él, con él. Son 5 minutos. La vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo. Y tú caminando lo iluminas todo. Los 5 minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada. Ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra, y en 5 minutos quedó destrozado. Suena la sirena, de vuelta al trabajo, muchos no volvieron. Tampoco Manuel. Te recuerdo Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel.
Très bien.
Merci pour cette chanson de Victor Jara, qui est donc un chanteur chilien qui s'était engagé pour soutenir Allende et qui a été donc arrêté tout de suite après le coup d'État et emmené comme 7000 autres Chiliens prisonniers par l'armée de Pinochet et torturé et tué au Stade National, qui maintenant porte son nom.
Et là, vous avez régulièrement des nouvelles du...
Du Chili, oui, j'ai encore de la famille au Chili, donc...
Donc ça va beaucoup mieux.
Ça va beaucoup mieux, oui. Oui, oui, heureusement.
On s'exprime librement.
Théoriquement, oui. Alors, je ne sais pas concrètement si ça peut vraiment avancer tel que la situation est, mais en tout cas, oui, il y a une démocratie. Enfin, voilà. Après, le terme de démocratie, je pense qu'il y a beaucoup de pays dans le monde dans lesquels le curseur pourrait
naviguer
et voilà. Mais c'est un autre débat.
Ben, un grand merci en tout cas.
Merci à vous.
Merci beaucoup. Est-ce que si vous avez des choses à rajouter, il est toujours temps.
Non, mais ce récit donne envie de voir le spectacle. Hein. J'espère que vous le rejouerez à Paris bientôt, parce que c'est intéressant. Et moi, je sais, parce que dans mon domaine, il y a eu de très, 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 très bons cinéastes chiliens.
Patricio Guzmán, par exemple.
Oui, par exemple. Ou Miguel Littin, par exemple. Oui. Des gens qui étaient vraiment de très, très... Et qui ont quand même fait des films autour de cet événement-là, mais sur la pointe des pieds, quand même. Ça réveille trop de choses, peut-être.
Il y a des cinéastes français aussi. Hein,
aussi, bien sûr.
Par exemple, Il pleut sur Santiago, non?
Oui, c'est ça. Oui, Hugo Santiago.
Je crois que c'est Il pleut sur Santiago.
Il pleut sur Santiago, plus, oui, voilà. c'est ça. Il y a eu un documentaire
oui,
aussi.
Qui curieusement a été tourné en Uruguay que l'Uruguay soit aussi.
Il faut donner l'adresse peut-être où ça a
donc
lieu.
Voilà, pour voir l'agenda, vous pouvez aller sur le site de la compagnie souffle14.com.
Souffle 14.
Avec le 14 en chiffres, tout attaché.
D'accord. Et c'est tous les jours, c'est.
C'est tous les jours.
Le spectacle.
Alors pour l'instant, ça ne joue pas en ce moment.
D'accord.
Donc c'est pour ça, il y a l'agenda sur le site de la compagnie qui permet de voir les prochaines dates.
Vous ne les avez pas.
Si, j'ai les dates, mais c'est en Normandie. La prochaine, c'est le 20 juillet, dans un festival qui s'appelle Tout seul devant tout le monde. Blangy-le-Château, donc c'est à côté de Lisieux.
C'est en Normandie.
En Normandie. Et ensuite, il y aura le 7 septembre. À l'abbaye de Grétin, dans l'Eure, en Normandie aussi.
Et à Paris ?
Et alors, Champs-sur-Marne, ce sera en janvier 2025. Et pour l'instant, les dates à Paris, ce sera en établissement scolaire. Donc, voilà, c'est réservé aux élèves. Il faut retourner au lycée.
Ben, un grand merci. On va terminer par une musique, parce que je crois qu'on arrive vers les heures prévues, 16h58.
Ça laisse juste le temps d'un petit texte offert par Jean-Marie.
Chemin des fées. Je prie le feu qui sème de talus en talus. Asphodèle, salse pareille, genêt, scorpion, de champ en champ. De friche en friche, dans les roches acérées, de ruisseau en ruisseau, de vallée en vallée, Je suis l'ombre qui plane dans l'arcure du ciel. Je suis la mémoire endormie. Je suis la trace solitaire du pas qui s'efface. Et toi, tu es la sorcière et la déesse, songe de renouveau. Tu es la bise, tu es le grand vent, tu es le souffle, tu es la mer. Elle te prend dans ses mains, la vague. Elle te berce dans sa chevelure. Elle est la vie. Allez, viens. Viens.
Et voilà, ça c'était le petit cadeau de Jean-Marie. On se retrouve la semaine prochaine et dans l'immédiat sur Radio Libertaire, c'est Bulle Noire.
T'as bien capté Bulle Noire sur Libertaire, Radio Libertaire. On va parler de polar sur Libertaire, Radio Libertaire.
De 17h à 19h,
baby,
ton ami Bob reçoit le gratin des auteurs. Radio Libertaire.
T'as bien capté Bulle Noire sur Libertaire, Radio Libertaire. On va parler de Paula sur Libertaire, Radio Libertaire.
Attention, c'est pas l'heure de 4h,
baby.
Faut pas tromper, les flingues vont sortir des holsters.
Bien capté Bulle Noire sur Libertaire,
Radio Libertaire.
On va parler de Paula sur Libertaire, Radio Libertaire.
On parle de 38, de calibre 44,
baby.
Mais bien sûr tu es sur 89.4.
Radio Libertaire.
Radio Libertaire.
Radio Libertaire.
Radio Libertaire.
Radio Libertaire.
Radio Libertaire. Radio Libertaire sur 89.4.
Bonjour à tous, et eh bien Bulle Noire en deux parties. Première partie polar, et il sera largement question de complotisme dans cette première partie avec notre invité Sébastien Lejean qui vient de publier aux éditions Liana Lévy numéro 17. Et en seconde partie d'émission, et eh bien nous aurons la joie et le plaisir de discuter avec un spécialiste des vieux et des jeunes. Je ne sais pas si tu es un spécialiste des jeunes et des vieux, ou des vieux et des jeunes.
On peut l'appeler comme ça.
Mot qui vient de publier aux éditions Flux Glacial, Jeunes Noirs, la guerre des générations.
Tout un programme.
Tout un programme, on va en parler dans quelques dizaines de minutes, mais tout de suite on attaque avec Sébastien Lejean, un jeune homme né à Paris, né à Lyon, je ne sais pas, les auteurs, ils sont souvent nés soit à Lyon, soit à Marseille, soit en banlieue.
Ah, en banlieue, voilà.
Voilà.
Banlieue parisienne.
Bon, tu vois, j'avais une chance sur trois. Donc, t'es un jeune garçon, il faut préciser aux auditeurs de Radio Libertaire.
Un jeune quadragénaire.
Et en même temps, il n'ose pas dire son nom. On trouve très peu d'informations, d'ailleurs, sur ta bio.